Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous, dans notre série « Pourquoi croire que la Bible peut m'aider dans mes conflits? » C'est un des messages les plus importants que vous pouvez entendre dans votre vie. Je crois vraiment que ce message peut faire une réelle différence, que pour tous ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas nécessairement tout ce que la parole de Dieu enseigne, vous allez être surpris d'à quel point c'est vivant, c'est pertinent, c'est proche de notre réalité. Apprendre à gérer des conflits, à guérir des conflits est une des expertises de vie, life skills, une des expertises de vie les plus importantes à apprendre. Comment guérir, comment gérer, grandir et guérir à travers nos conflits lorsqu'on traverse des conflits. Comment résoudre, comment relâcher, comment se relever, comment être restauré et même comment aller jusqu'à la réconciliation, devenir des agents de réconciliation, parce que la Bible nous dit, à tous les chrétiens qui regardent en ce moment, que Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés pour que nous devenions sur la terre en 2020 des agents de réconciliation. Si vous n'apprenez pas comment gérer des conflits, comment régler des conflits, comment guérir des conflits, vous allez perdre tellement de choses dans votre vie. Vous allez être misérable dans de larges segments de votre vie. Ça va empoisonner, ça va vous voler plein de choses. Et je crois que ces messages peuvent vraiment enrichir votre vie. Manquez pas, c'est en deux parties. Les deux prochains messages, nous avons besoin d'apprendre comment gérer les conflits, parce que les conflits sont inévitables, font partie de l'expérience humaine dans le mariage avec nos enfants lorsqu'ils grandissent, ados, les enfants adultes, dans nos amitiés, au travail, à l'église, sur les médias sociaux. Nous avons besoin d'apprendre à régler des conflits. Le problème, c'est que personne ne nous a appris. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'université. Personne ne nous a appris et très souvent, nos parents ne nous ont souvent pas communiqué comment, ne nous ont pas enseigné comment. Et pour beaucoup d'entre nous, nos parents ne pouvaient pas nous enseigner ce qu'ils n'avaient pas été enseignés eux-mêmes, ne peuvent pas nous communiquer ce qu'ils n'avaient jamais été enseignés. Et au pire, ils nous ont parfois contaminés avec leurs propres carences, avec leurs propres virus relationnels et comportements qui sont nocifs ou toxiques. Et je veux vous dire qu'après toutes les années de pastorat où j'ai été face à face avec des milliers de personnes en relation d'aide, en counseling et à travers le monde, plus de 55 pays, savoir comment gérer des conflits, la Bible peut-elle m'aider dans mes conflits, savoir comment gérer des conflits n'est pas une question de degré universitaire, n'est pas une question de diplôme, de formation académique ou professionnel. J'ai connu des PhD, j'ai connu des docteurs et des doctoresses en psychologie qui étaient des machines à offense, qui offensaient tout le monde, blessaient tout le monde, qui étaient des inadaptés relationnels avec tout leur diplôme. J'ai connu des capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise, des génies qui ont créé des choses immenses et extraordinaires, qui étaient misérables dans leurs relations interpersonnelles. J'ai connu dans les dernières années, on a vu des communicateurs de la Bible, certains des enseignants, un des enseignants les plus prolifiques, les plus dynamiques de la Bible que vous pouvez imaginer, qui a vu son église imploser, l'église imploser, fermer, le mouvement qu'il a créé, le jeter dehors, et tout ça, pas pour immoralité et non plus pour hérésie, simplement c'était toutes les dynamiques relationnelles dans leur équipe qui étaient empoisonnées. Après 36 ans de ministère pastoral, je pense qu'en 2020, je n'ai jamais connu une époque aussi divisée, où nous avons autant besoin d'apprendre et de réapprendre et surtout de mettre en pratique. Ce message me confronte profondément parce qu'il y a plein de choses que je vais vous enseigner aujourd'hui que j'ai besoin de remettre en pratique ou de pratiquer infiniment mieux que je l'ai fait. Je n'ai jamais connu une époque aussi divisée, aussi agressive, aussi virulente, déchirée, division. Les divisions sont politiques, des divisions raciales, des divisions sociales, des divisions qui sont intergénérationnelles. Il faut vous compreniez que c'est la stratégie et c'est le pain et le beurre de réseaux de télévision, c'est le pain et le beurre de mouvements, de partis politiques. Il y a des élections majeures dans le monde qui se sont gagnées en divisant les gens. Divide to conquer, diviser afin de conquérir. Il y a tout des conglomérats médiatiques, journaux, télé, radio, réseaux sociaux qui sont là pour promouvoir cette division, pour nous isoler chacun dans notre camp où on se parle juste entre nous et promouvoir tout cet élément de division. Il y a des conflits. Et bien sûr, comme dans toutes les époques, l'Église a besoin d'être alerte parce qu'elle est infiltrée, parce qu'elle est imprégnée, parce qu'elle est affectée par l'éthos du monde dans lequel nous vivons. Et sans aucun doute, nous vivons un éthos de division en ce moment. Il y a des conflits, des divisions entre croyants, en personne, dans les familles, sur les médias sociaux, sur toutes sortes de sujets. Et bien sûr, sur le sujet de l'heure, sur la pandémie, sur la COVID-19, sur le port du masque ou non, sur le vaccin, le déconfinement, la distanciation. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des opinions différentes sur des sujets aussi vastes et aussi complexes. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des opinions qui sont différentes. Ce n'est pas le fait que des opinions soient différentes qui soient troublantes. C'est la fureur. C'est la fureur des réactions, c'est la fureur des commentaires et c'est la fermeture à l'idée de l'autre. Depuis toutes ces années de ministère, de pastorat, je pense que je n'ai jamais vu autant de conflits. De conflits entre chrétiens, entre gens qui se connaissent, qui s'apprécient, des amis de longue date qui tout à coup sont en guerre sur les médias sociaux ou même en personne, sur des sujets et des opinions qui sont politiques, qui sont sociales, qui sont sur les mesures sanitaires, par exemple, en ce moment, des mesures de santé publique, sur lesquelles des experts médicaux, nous ne sommes pas la majorité d'entre nous, nous ne sommes pas des experts, mais sur lesquels des experts mondiaux travaillent jour et nuit, sans relâche pour essayer de trouver les meilleures méthodes de prévention, de cure, de vaccin, des mesures sanitaires, sauver des vies, préserver l'économie, c'est titanesque. Et je reçois des courriels, je suis en contact avec des pasteurs et des leaders plusieurs fois par semaine, et de tous les côtés, parce que tu vas parler de ça, pasteur Claude, quelle est notre place, quel est notre rôle, notre appel à nous? Je veux juste vous dire fondamentalement que Jésus nous a donné notre appel, quelles que soient les époques. Il a dit, vous allez aller de par le monde et faire des disciples de toutes les nations. Et vous allez aussi, à l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres, vous allez révéler qui vous êtes. Vous allez révéler que je vis en vous. Notre mandat, pensez-y, sur 2000 ans on n'est pas les premiers, de guerre, de vagues de guerre, de pandémie, d'épidémie, de génocide, de tout ce que vous pouvez imaginer. Jésus a dit deux choses pour l'Église chrétienne, deux choses pour toi et moi. Faire de toutes les nations des disciples, annoncer et déclarer. Alors, c'est à ça que chacun d'entre nous, dans toutes mes conversations, dans tout ce que je fais, dans tous mes postings sur les réseaux sociaux, c'est à ça que je suis appelé à me donner. Alors, l'idée divine, c'est que alors avec tout ce qui se passe autour de nous, non seulement ce qu'on va annoncer et déclarer, mais nous allons aimer et démontrer. Dans toutes les époques, comme celle-ci en particulier, l'intention de Dieu, c'est que son peuple sur la terre, alors que les gens nous regardent vivre, alors que les gens nous regardent interagir en personne, en ligne, sur Facebook, sur Instagram, alors que les gens voient comment des chrétiens interagissent en eux, qu'ils disent, alors que tout le monde est divisé, irascible, colérique, opiniâtre, fermé, plein de rage et de division, d'orgueil, il y a un peuple qui émerge. Comme le peuple de la réconciliation, comme le peuple du respect, comme le peuple qui sait comment, notre appel fort, qui sait comment gérer les situations de conflit, guérir, générer la paix. Notre appel fondamental est de proclamer le prince de paix, et non seulement le proclamer, mais personnifier le prince de paix, et plus que ça, être ceux qui procurent la paix. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 et le verset 9. Car Dieu bénit ceux qui procurent la paix, ou béni soit, ou heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ça qui est notre identité, littéralement. Béni, le mot qui est là, qui vient de Makar, veut dire richement, enrichi, béni, heureux, le peuple qui amène la paix. Est-ce que tu procures la paix à ta famille, à ton mariage, à tes enfants? Est-ce que tu es quelqu'un qui est connu pour amener la paix au bureau, au travail, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, dans toutes tes relations? Sommes-nous le peuple de la paix? Et c'est la chose la plus importante qu'on peut apprendre. Comment amener? Comment devenir ceux qui procurent la paix? Alors, on va regarder en deux messages. Alors, manquez pas le prochain. C'est vraiment, les deux messages sont tellement importants. Nous allons regarder à quelque chose que peut-être vous ignorez complètement ou que vous avez entendu vaguement ou que vous avez connu et délaissé, mais ce qu'on appelle les 5 lois bibliques pour grandir dans ma capacité de gérer et de guérir de mes conflits et de générer la paix. Il y a des lois. Et la première, c'est ce que j'appelle la loi de l'ignorance et de l'importance. C'est très important si on veut devenir ceux qui savent mieux être équipés pour gérer des conflits, ce que régler des conflits sainement et bibliquement n'est pas. Ce que procurer la paix n'est pas. Et procurer la paix, ce n'est pas de l'évitement. C'est pas l'évitement. Ce n'est pas, le message biblique n'est pas « j'abdique mes droits, je tolère l'intolérable dans mes relations personnelles, j'accepte qu'on me méprise, qu'on me manque de respect, j'évite à tout prix, je balaie tout sous le tapis coûte que coûte ». Procurer la paix n'est pas l'évitement, n'est pas l'apaisement par la servitude. J'écrase pour avoir, juste pour pouvoir avoir la paix. Ce n'est pas toujours balayer sous le tapis ou tout avaler. Procurer la paix, ce n'est pas le déni de la réalité des mauvais comportements, mauvaises actions, mauvaises paroles dont que je reçois, qui sont faites envers moi. Ce n'est pas non plus la loi de l'ignorance. C'est important de savoir ce que vraiment procurer la paix n'est pas. Ce n'est pas non plus la codépendance. Ce n'est pas la codépendance. La dépendance affective, c'est une personne qui a besoin de l'autre pour son bonheur. La codépendance, c'est que la personne a besoin que l'autre ait besoin de lui ou d'elle. Elle accepte tout. Elle subit tout. Elle veut sauver l'autre, même malgré lui, même malgré elle. Procurer la paix n'est pas d'accepter ce qui est inacceptable, de tolérer l'intolérable au nom de garder la paix. Ce n'est pas de se perdre soi-même par peur de perdre l'autre. Ça, ce n'est pas procurer la paix. J'aimerais vous dire ceci aussi, la loi de... C'est important de savoir ce que la paix n'est pas, ce que procurer la paix n'est pas. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas facile. Une des phrases les plus irréelles et une des phrases les plus imaginaires qu'on peut prononcer, c'est lorsque vous entendez quelqu'un dire « le temps guérit tout ». Le temps arrange tout. Si, et c'est absolument faux. S'il y a... Le temps seul ne guérit absolument rien. S'il y a un diagnostic de cancer, on ne dit pas « il y a un cancer, on va juste laisser aller le temps ». Si le temps guérissait tout, tout le monde serait guéri, personne n'aurait besoin de médecin, tout le monde serait guéri dans les salles d'attente des urgences du Québec. On attend tellement longtemps, tout le monde serait guéri, on n'aurait même pas besoin de médecin. Non, non, le cancer se répand s'il n'est pas traité. Si vous gardez, si vous ne relâchez pas la colère, l'apitoiement, le blâme, la frustration, la jalousie ou quelques autres de ces émotions qui sont générées par les conflits, votre cœur va s'endurcir. Le temps seul n'est pas un créateur de guérison, mais il est un collaborateur. Il est un contributeur de guérison. Il peut devenir un partenaire. C'est vrai qu'avec le temps, si vous mettez en pratique les principes des lois de Dieu, et si vous apprenez, on va l'apprendre ensemble, mettez en pratique et vous laissez l'œuvre de Dieu se faire en vous, quel que soit le conflit, le deuil ou la souffrance, c'est vrai qu'avec Dieu, sa présence, sa parole, ses principes, notre engagement, le temps fait son œuvre. Mais c'est important de comprendre la première loi dans la gestion des conflits, c'est ce qu'on appelle la loi de l'ignorance et aussi la loi de l'importance. Notre capacité à grandir dans la gestion et la guérison de nos conflits va directement impacter, affecter tellement d'aspects de nos vies, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Toutes sortes de dimensions. Je parle aux croyants aussi. Littéralement, la Bible dit que les conflits non réglés affectent non seulement mes relations humaines, mais vont affecter, les conflits non réglés vont affecter ma relation avec Dieu. 1 Jean, chapitre 4, et le verset, des portions de chapitre 4, verset 7 à 21, qu'on nous a dans la parole de Dieu, vous allez voir à quel point c'est très important pour vous parce qu'on a tendance à dissocier tout va bien entre moi et Dieu alors qu'on permet au conflit de perdurer. Jean dira, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu connaît Dieu. Quiconque aime, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est quelque chose qui est tellement fondamental, qui est tellement profond. Il continuera en disant, si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous. Nous reconnaissons que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Nous reconnaissons que l'Esprit de Dieu demeure dans quelqu'un par sa capacité à respecter, à honorer, à pardonner, à être calme, à être pacifique, à chercher à amener la paix. Et c'est particulier parce que celui qui nous donne cet enseignement avait un surnom. Le surnom de Jean, c'était le fils du tonnerre. Imaginez-vous dans notre époque moderne, s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est connu comme celui qui gueule, celui qui crie, celui qui explose. J'ai un ami haïtien, son surnom avant c'était Tichot. Il était un colérique. C'était Jean. Et on a même une vignette de sa vie, même alors qu'il marche avec Jésus, la colère est une ennemie pour lui, alors qu'il arrive dans un village et qu'il présente le plan du salut, présente le Seigneur Jésus et le peuple le refuse, il vient tellement, tellement enragé. Un peu comme quelqu'un qui t'oppose sur les médias sociaux. Il dit, Seigneur, si vraiment tes yeux, Jésus, descend le feu du ciel pour les consumer. Mais Jean, qui avait été un désastre relationnel, rongé par la colère, dit, celui qui connaît, celui qui marche avec Dieu, si tu es en relation avec Dieu, il va avoir son amour qui va être en toi, son esprit va faire son œuvre en toi. Et il est tellement conscient, tellement facile selon Jean de se tromper soi-même, de nous illusionner, nous faire croire que tout va bien avec Dieu, alors que je suis dans l'amertume et la colère, qu'il dira de manière la plus sans équivoque possible dans 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il a de la haine, de l'amertume dans son cœur envers son frère, c'est un menteur. Nous avons reçu un commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est littéralement, c'est tellement l'importance, la loi de l'importance. Les conflits non réglés, non seulement affectent ma communion avec Dieu, mais peut littéralement devenir un mur, un plafond peut bloquer non seulement ma communion avec Dieu, mais mes prières, empêcher mes prières d'être répondues. Et Pierre, qui était un homme impulsif, qui était un homme de colère, qui était un homme marié, alors que nous savons que Jésus a guéri sa belle-mère dans un des évangiles. L'Esprit de Dieu s'empare à lui dans une culture où les femmes étaient souvent écrasées, où les hommes pouvaient dire et faire n'importe quoi à leurs femmes et séparer ça complètement de ce qui se passait dans le temple. Pierre dira dans 1 Pierre 3, Marie, verset 7, 1 Pierre 3, 7 à 9, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos épouses comme un sexe qui est plus sensible, d'une plus grande sensibilité. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tu peux être le gars le plus impliqué de l'Église, le plus connu de l'Église, qui est placeur, qui est sur le comité d'administration, qui est partout, qui enseigne, qui conduit la louange, qui est de tous les côtés. Comment tu te comportes à la maison derrière les portes? Quelles sont tes paroles envers ton épouse? Va avoir une directe incidence sur est-ce que Dieu va répondre à tes prières ou non. Puis c'est pas seulement pour les maris. Il continue en disant, « Enfin, vous tous, soyez animés. » Du même esprit d'amour, de compassion, d'humilité. Pourquoi? Car c'est à cela que vous avez été appelés. 1 Pierre 3, 9. C'est à ça, c'est ça notre appel, afin d'hériter de la bénédiction. La bénédiction est pour ceux qui en comprennent l'importance. L'importance de gérer des conflits, ça va affecter profondément toutes mes dynamiques relationnelles. Hébreux, chapitre 12, les versets 14 et 15. Vous voulez savoir à quel point c'est important pour Dieu? Faites tous vos efforts. Est-ce que tu fais vraiment tous tes efforts en ce moment, dans toutes tes actions, pour amener la paix, pour contribuer à apaiser? Faites tous vos efforts pour mettre en paix avec tout le monde, pour mener une vie de plus en plus droite et intègre. C'est un enjeu de sainteté et d'intégrité pour Dieu, notre capacité à gérer et à être des outils de paix, sans laquelle, et que c'est important pour lui, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine, ça va avoir une influence sur toutes tes dynamiques relationnelles, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Nous avons tous, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Il dit ici, ne néglige pas le fait que Dieu, dans sa grâce, t'a pardonné, mais qu'il rend disponible pour toi la grâce, la capacité divine de relâcher, la grâce de relâcher, de pardonner, de couvrir, la grâce d'aimer au-delà de nos capacités et de nos natures. Vois ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Nous allons nous rappeler toutes nos vies de l'année 2020 comme l'année du virus qui empoisonne et qui se répand. Comment quelques personnes peuvent infecter, faire du mal et mettre en danger un grand nombre, physiquement. Mais la parole de Dieu avertissait spirituellement, émotionnellement, relationnellement. La parole de Dieu nous avertissait contre cette dynamique, de faire attention, d'être alerte à cette dynamique de contamination, de toxicité exponentielle, non seulement physique, mais dans nos relations, par nos paroles, par nos attitudes, encore dans le monde spirituel, humain, relationnel, conjugal. Aujourd'hui, une personne peut, un cœur qui permet à l'amertume de demeurer peut commencer à empoisonner tout ce que tu fais autour de toi. C'est la loi de l'importance. Mon ouverture à apprendre à gérer et guérir de mes conflits bibliquement va affecter directement ma destinée. Mon bonheur, ma possibilité d'accomplir. L'appel de Dieu sur nous suprême est d'être des hommes et des femmes comme peuple qui sème la paix. À chaque jour, sème la paix. Jacques chapitre 3 et le verset 17 et 18. Jacques 3, 17, 18. La loi de l'importance. La sagesse d'en haut, ce qui était l'inspiration de Dieu, est premièrement pure. Mais voici maintenant mon verset 2020, pour tout ce que je poste, tout ce que j'envoie à d'autres, tout ce que je transfère, tout ce que je like sur les réseaux sociaux, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique. Est-ce que je suis pacifique? Modéré, quel beau verset 2020. Conciliante, pleine de bonté, de pardon, de bons fruits. Exemple d'hypocrisie et de mauvaise intention. Ces bons fruits sont semés dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nous sommes appelés à être ceux que ma destinée, mon appel, mon appel en Dieu, ma capacité à accomplir l'appel de Dieu dépend de ma réponse à cette question. Depuis le début de cette COVID, est-ce que je suis habité de la sagesse de Jacques 3, 17, qui est pacifique, qui est modéré? Est-ce que je comprends, je connais et comprends et pratique la loi de semer et de récolter? C'est une loi immuable, relationnelle, mais c'est une loi spirituelle, une loi du royaume de Dieu. Il y a des lois qui régissent l'univers, il y a des lois qui régissent la nature, le corps humain. Il y a des lois relationnelles et spirituelles. Si tu sèmes de la dissension, si tu sèmes de la colère, si tu sèmes de l'amertume comme les médias, si tu sèmes de la division, de l'orgueil, si tu sèmes de l'isolement et que tu le fais et que tu sèmes, tu vas toujours récolter selon ce que tu as semé. Mais tu vas le récolter en plus grande quantité. Les plus petites semences produisent les plus grandes quantités. On se fait souvent demander en ce moment, avec tous les mêmes défis que n'importe quelle église et les mêmes défis que n'importe quelle organisation chrétienne, pourquoi est-ce qu'on vit un tel niveau de bénédiction, un tel niveau de faveur de Dieu à nouvelle vie malgré la COVID en ce moment? J'aimerais vous dire que depuis 27 ans, il y a une poursuite bien imparfaite, mais une poursuite de semer la paix, de semer la paix, de semer la grâce, de semer l'amour, de semer la générosité, de semer le pardon, de semer l'unité. Et Dieu vient te récompenser infiniment au-delà de la semence que tu as mise. C'est la loi de semer. Le fruit extraordinaire de Dieu est produit par ceux qui sèment la paix et qui poursuivent la paix. Est-ce que je suis prêt à revenir à mon appel comme chrétien, à semer des semences de paix et à rechercher la paix? La loi de l'intentionnalité à initier. Voici comment. On en fait une aujourd'hui, puis on va continuer dans le prochain message. Mais voici comment je vais apprendre, non seulement gérer, mais guérir et en venir à grandir dans ma capacité d'apporter la paix. Et la loi de l'intentionnalité à initier, comme Dieu envers nous, comme notre Seigneur Jésus envers nous, ceux qui procurent la paix font les premiers pas. La parole du Seigneur pour toi aujourd'hui et pour moi, c'est que ceux qui amènent la paix, le principe numéro un de gérer les conflits, c'est d'être prêt à faire les pas à nouveau. J'entends quelqu'un dire, non, c'est pas moi qui vais faire les pas, je l'ai fait tellement de fois, c'est de leur faute, c'est à eux à venir à moi. Comme Jésus l'a fait envers nous, ceux qui procurent la paix sont renouvelés par Dieu pour faire des premiers pas. C'est tellement important, c'est tellement essentiel dans les lois de la gestion et dans la guérison des conflits pour Dieu, que Jésus dit, c'est plus important que plein de choses qu'un chrétien pense qui sont les plus importantes. Si je demande à beaucoup de chrétiens, c'est quoi qui est le plus important? On dit bien, aller à l'église, lire la parole, être dans la parole de Dieu, la louange, l'adoration, être généreux, les offrandes, tout ça, son importance. Mais dans Matthieu, chapitre 5, au verset 23 à 26, Jésus dira ceci. C'est tellement important que c'est plus important que tout ce que tu pensais qui était important. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et l'autel représente toute l'expérience avec Dieu aussi. C'était l'autel où les sacrifices étaient offerts, l'autel de louange, l'autel où la parole était lue et expliquée, l'autel de prière, toute ton expérience avec Dieu. Si donc tu te présentes à l'église, si donc tu es assis chez vous et tu regardes Nouvelle Vie chez vous attentivement avec aucune distraction, c'est ce que j'espère, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Pas que ça te revient en tête comment la personne t'a offensé, comment quelqu'un t'a fait du mal, mais est-ce que ça serait possible que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que c'est possible que j'ai fait du mal à quelqu'un? Et l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu, l'esprit de réconciliation vient l'amener à ton cœur. Laisse-la ton offrande, arrête tout. Laisse-la ton offrande devant l'autel. Et sans passant, c'est le verset favori des trésoriers d'église parce que Jésus dit, laisse ton offrande, donne-la et après va régler les problèmes. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge te livre à l'officier de justice, que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier. Tu ne sortiras pas de là jusqu'à temps que tu aies payé le dernier cadran. Il y a un porteur de quelqu'un qui est en louange qui vient pour porter son offrande et il y a une impression, il y a un rappel à son cœur. Est-ce que j'aurais offensé ou blessé cette personne-là? Je mets mon offrande là pour un moment et je m'en vais promptement. Je fais des premiers pas. J'ai une intentionnalité d'initier une œuvre de réparation. Et c'est seulement alors que ça, c'est fait, que je peux revenir, donner mon offrande, louer, adorer. Alors que énormément de chrétiens peuvent être des jours, des semaines, des mois et des années à faire toutes les pratiques chrétiennes alors qu'il y a quelque chose qui est resté dans son cœur. Alors, la question, c'est est-ce que tu laisses les conflits durer? Est-ce que tu les laisses perdurer? Dans ton couple, dans ta maison, avec tes enfants, avec d'autres chrétiens, avec des gens autour de toi, dans ta famille, proche ou éloignée. Lorsque tu te retrouves face à un conflit, es-tu plus moufette ou es-tu plus tortue? La moufette, et les deux types de personnalités existent encore aujourd'hui. La moufette, lorsqu'il y a un conflit, éclabousse tout le monde autour. La tortue se retire. Regarde, oh, il y a du trouble, je me retire dans ma carapace. Je vais me cacher du conflit. Et très souvent, les moufettes marient les tortues. Ça, c'est tout un autre dynamique. Mais les conséquences sont tellement importantes. Les mots de Jésus sont tellement puissants. Jésus dit, il faut que tu le fasses promptement, il faut que tu fasses les premiers pas. Vas-y, laisse pas le temps passer. Vas-y promptement. Puis là, il peint un portrait. Si tu ne le fais pas, le jugement va te mettre dans une prison. Et cette semaine, je prie à ça jour après jour, tu ne sortiras pas de là sans avoir payé le plein prix. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait de dire à quelqu'un qui est là, tu payes un prix pour l'amertume. Tu payes un prix trop lourd. Jésus a payé le prix pour toi. Tu payes un prix dans tes relations, tu payes un prix dans ta joie, tu payes un prix dans ta santé, tu payes un prix dans l'accomplissement de ton appel. Tu as tout avorté, tu as tout arrêté à cause d'un conflit que tu ne peux pas prendre. Tu ne veux pas prendre les devants. La loi d'intentionnalité qui initie la démarche de résolution de conflit. La seule façon de régler un conflit, ce n'est pas de l'éviter, ce n'est pas de le nier, ce n'est pas de le contourner ou de le remettre à plus tard, de l'enfouir ou de s'étourdir. C'est d'y faire face. Et la question suprême, c'est qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous empêche, nous bloque dans la décision d'y aller, d'initier? Ça ne veut pas dire que chaque initiation intentionnelle de chercher à régler les conflits va tout régler automatiquement. La parole de Dieu, le Seigneur a dit plusieurs fois, il y a plusieurs textes qui nous disent « Sois en paix avec tous, en autant que cela dépend de toi. » Alors, je ne peux pas toujours être responsable de tous les autres, mais je suis responsable, par la grâce de Dieu, d'initier et de chercher avec sagesse à initier à nouveau. Mais qu'est-ce qui m'en empêche? Quel est le plus grand blocage? Je crois, après, pour l'avoir vécu, expérimenté, ce que la Bible enseigne un mot, la peur. La peur nous empêche d'initier l'œuvre de restauration. Nous avons peur. Peur des conflits. La peur des conflits, lorsqu'on se sent vulnérable, qui fait qu'on se retire, qu'on se cache, qu'on refuse d'entendre la voix de Dieu, est aussi ancienne que le premier conflit dans le premier couple modèle de la Bible, dans le livre des commencements, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, et les versets 8 à 10. Alors, Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et comme l'homme et la femme, sa femme, se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui et dit, « Où en es-tu dans tes relations? » Est-ce que tu te caches? Est-ce que parce que tu es vulnérable, tu te caches, tu as peur d'initier à nouveau? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, mais j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » C'est la dynamique qu'il y a dans le texte de Genèse. Dieu appelle, mais ils sont cachés parce qu'ils ont eu peur. Il y a eu un conflit entre eux et Dieu. Ils ont désobéi, se sont éloignés de Dieu. Ça a amené un conflit entre eux. Lorsque vous connaissez le texte, ils sont dans une dynamique d'accusation. Non, c'est toi. Non, c'est toi. De projection, d'accusation, de projection, de blâme l'un de l'autre. J'ai entendu la voix qui m'appelle, mais j'ai eu peur. Je me suis caché parce que je suis nu. Parce que je suis vulnérable, je me sens sans défense, je suis à découvert des couples, des familles, des amis, des adultes envers leurs parents, des parents envers des adultes, des gens dans les mêmes familles, les uns envers les autres, depuis toujours, se cachent l'un de l'autre depuis toujours parce qu'ils se sentent vulnérables et que nous avons peur. Il y a un artiste chrétien contemporain qui a écrit « Quand on ne sait pas dire ce qui a fait mal, on se condamne au pire à le garder pour soi. » J'ai été vulnérable. Et dans cette vulnérabilité-là, j'ai peur. Nous avons peur d'initier parce que j'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur d'être jugé. J'ai peur que ce que je vais révéler soit utilisé contre moi. J'ai peur de ne pas être capable de changer. J'ai peur. C'est un cycle qui est toxique. Un cycle où j'ai eu peur. Alors, je suis sur la défensive. Et lorsque je suis sur la défensive, que je me sens vulnérable, il faut que j'attaque. Alors, je deviens de plus en plus demandant, je blâme l'autre, je cherche à projeter. Je deviens distant, désagréable, je deviens détaché et en danger. Je deviens isolé de plus en plus. C'est une nouvelle, c'est une des raisons les plus extraordinaires pour laquelle, pourquoi croire que Dieu peut m'aider dans mes conflits? Pourquoi croire que la Bible peut m'aider? Parce que la Bible dit que ceux qui veulent procurer la paix, ceux qui veulent semer la paix, ceux qui veulent initier la réconciliation, la paix, mais qui se sentent nus et vulnérables et qui ont peur, ceux qui disent « je voudrais, mais je serais même pas capable », Dieu dit, je t'offre mon esprit. Je n'ai pas donné, deuxième Timothée, je n'ai pas donné un esprit de peur. Mais ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Le mot grec, en anglais, l'on traduit « sans de même », de stabilité mentale, de stabilité émotionnelle, de paix. Et je veux te donner une parole de force, une parole d'encouragement aujourd'hui. Il ne nous laisse pas à nous-mêmes. Et Dieu ne parle jamais le langage de la peur. S'il y a quelqu'un qui t'a modelé un christianisme ou une religion où c'était la peur qui dominait, ce n'est pas. Paul dit au jeune Timothée qui avait peur au niveau relationnel, plein de conflits autour de lui. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. La force de relâcher, la force de pardonner, la sagesse, l'amour au-delà de nos capacités. C'est la loi de l'intentionnalité à initier qui est seulement possible par la dernière pensée aujourd'hui, par la loi de l'incarnation pour de nouvelles impulsions. Et même la loi de l'inspiration, pardon, pour de nouvelles impulsions et même pour une incarnation. Les lois, les principes et les promesses de Dieu, elles sont réelles. Dieu est réel, son esprit est réel pour t'aider dans la guérison de toutes les relations. Si tu ranimes le don de Dieu, de son esprit, tu n'as pas donné un esprit de peur. Et elles sont réelles dans toutes les sphères relationnelles. Je vais en adresser une aujourd'hui à travers un texte qui est de 2000 ans. Un texte pertinent et prophétique de Paul dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, adressant un avertissement puissant à son peuple dans le contexte de la discussion et du débat sur les temps de la fin, sur l'avènement de notre Seigneur. 2 Timothée 2, verset 23. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, pneuma, souffle. Il y a un esprit ou quelques paroles, quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise de cette manière. J'ai trouvé ça tellement hallucinant, tellement pertinent, la pensée que dans le contexte de son avènement, des temps de la fin et du retour du Seigneur, il parle qu'il y a un esprit, il y a une inspiration. C'est possible d'aller au verset précédent. Il y a une inspiration, il y a un souffle qui mène à la confusion, qui mène à être ébranlé, qui mène à te laisser facilement ébranler dans votre bon sens, à être dans la confusion. L'apôtre Paul dit, c'est ça, il y a 2000 ans. L'apôtre Paul dit, voici ce qui se passait. Des gens s'envoyaient des communications en disant, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est maintenant que le Seigneur revient. Et Paul dit, c'était pas nous. C'était pas l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, à travers 10 000 postings et tout le reste, il est possible pour nous d'être déstabilisés, d'être ébranlés, d'avoir ce souffle. Et souvent, ce souffle en ce moment, il est dans l'accusation, il est dans la colère, il est dans le blâme. Et la parole de Dieu nous dit, il y en a un autre souffle. Et je vais terminer en disant aujourd'hui, il faut que tu choisisses quel souffle va t'animer. Et dans Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul dira, c'est le dernier verset aujourd'hui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, c'est ça notre appel. Revêtez-vous d'entrailles de pardon, c'est une affaire de cœur, c'est intérieur, de bonté, d'humilité. Tu ne sais pas tout. Tu ne peux pas porter des jugements sur tout, sur une chose, sur un truc que tu lis. Humilité, bonté, gagner des âmes, exprimer le cœur de Dieu, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si vous avez un sujet de plainte, un sujet de conflit, un sujet de controverse, un sujet de désaccord, pardonnez-vous réciproquement. Gardez votre focus sur l'appel que vous avez à incarner Jésus. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toute chose, par-dessus mes opinions, par-dessus mes convictions, par-dessus les débats, par-dessus les pétitions, par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, le dernier verset de la journée, et alors la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. C'est à ça qu'on est appelés. Pour former un corps sur cette terre. Règne dans vos cœurs. Que la parole de Christ habite parmi vous. L'actualité, oui. Être au courant, oui. J'ai des opinions, oui. J'arrête pas de penser, de réfléchir. Mais ce qui doit primordialement habiter dans mon cœur, c'est la parole de Dieu. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Souvenez qu'il y avait une inspiration de confusion, une inspiration d'attaque, une inspiration qui fait perdre ton bon sens, qui t'ébranle à propos de l'avènement du Seigneur. Mais maintenant, exhortez-vous dans la paix, dans l'amour, dans la sagesse, sous l'inspiration, sous le souffle, sous le pneuma de la grâce de Dieu. Dans ces derniers moments, je prie que la paix de Dieu, que je puisse revenir et que tu puisses revenir à notre appel de paix. Je choisis quelle inspiration, je choisis quel esprit va m'animer. Mon cri, ma prière pour moi, pour vous, pour nous comme son Église, c'est qu'on puisse réanimer, être réanimé dans cet esprit de paix. Seigneur, que je puisse réaliser à quel point toute cette dynamique de relation et de paix, et mon appel à procurer la paix est important pour toi. À quel point ça affecte toutes mes relations. Je reconnais aujourd'hui que je n'ai pas la capacité d'initier la paix par moi-même. Je n'ai pas la capacité, Seigneur. Je l'ai fait tellement de fois, j'ai besoin que ta grâce, ton amour vienne remplir mon cœur à nouveau. J'ai besoin de ranimer le don de Dieu qui chasse la peur de l'échec, la peur d'être jugé, la peur d'être vulnérable, la peur de... Non, Seigneur, mon Dieu, tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de paix, de force. Et aujourd'hui, Seigneur, je ne suis pas capable par moi-même d'initier cette démarche, mais par ton esprit, viens m'aider, viens me libérer, viens me fortifier. Seigneur, je refuse Je veux résister à l'inspiration de la colère, à l'inspiration de la confusion, à l'esprit de ce monde qui divise, qui attaque, qui abaisse et qui, je vais n'écouter personne que ceux qui pensent comme moi. Seigneur mon Dieu, remplis-nous à nouveau, ramène-nous à ton cœur. Que nous soyons ton corps sur la terre, que nous soyons le modèle d'amour, d'apaisement, la voie de paix, la voie d'apaisement, la voie de réconciliation pour ce monde. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, ramène-moi à ton souffle de grâce. Viens souffler ton souffle de grâce en moi et par moi dans chacune de mes relations. Et à travers nous, que nous soyons ton peuple, ton Église, en personne, dans nos familles, dans nos villes, sur les médias sociaux, dans notre nation et dans la francophonie. Dans le nom de Jésus, amen et amen. Et on termine, prenez un moment de prière. C'est tellement important avec un chant magnifique. L'équipe d'adoration chante un chant parfait pour toute notre démarche ensemble dans la guérison, dans l'appel à procurer la paix. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que, cantique magnifique, tout ce que j'appelle mien. Ô Seigneur, ne permet à personne d'en reprendre rien. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Tu peux me rendre, et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Entre tes mains, j'abandonne. C'est pour toi que je veux vivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Et je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur, et fais de nous des hommes et des femmes qui procurent la paix. Que le Seigneur vous bénisse.